On s'intéresse à la rentrée des étudiants ce matin à l'UPF, mais aussi à la présentation du nouveau procureur général avant de nous envoler pour la Suède pour prendre des nouvelles de nos Tahitiens engagés sur les mondiaux de swimrun. Le journal de la mi-journée, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On commence ce journal à l'université.
Oui, l'UPF où deux rendez-vous ont rythmé ce premier lundi matin de septembre, avec d'abord ces rentrées particulièrement attendues, celles des promotions d'aides-soignants et d'infirmiers qui vont pouvoir être formés au sein de l'université, à défaut de pouvoir l'être dans les locaux de Mathilde Frébeau fermés depuis 2022. Après un processus de sélection rigoureux ayant attiré environ 150 candidatures, 15 futurs aides-soignants et 15 futurs infirmiers ont été retenus pour débuter leur formation. C'est la branche polynésienne d'Ocellia Santé Sociale, une école basée à Lyon, 37e du classement des écoles de soins infirmiers de France, qui va assurer la formation. Alors parmi les étudiants inscrits, on retrouve différents profils, des bacheliers tout juste diplômés de Tahiti, des jeunes des îles, mais aussi des professionnels en quête de progression. Sur la formation d'infirmiers, par exemple, 6 des 15 étudiants sont des aides-soignants qui souhaitent monter en compétences. Même constat sur la formation d'aides-soignantes qui compte un AESH, un accompagnement des élèves en situation de handicap, mais aussi une auxiliaire de vie. Yassia Garali travaille depuis plus de 10 ans à domicile et en EHPAD. Pour elle, cette formation est une opportunité de développer ses compétences et d'évoluer professionnellement.
C'est pas la première fois que je passe le concours d'aide-soignant. Ça a été difficile pour le quota de place. J'ai dit, bon, allez, je lâche pas et puis je vais continuer. Et puis voilà, ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Et voilà. Avec l'expérience, on a envie d'évoluer parce qu'on se dit qu'on a les capacités et on peut le faire. Beaucoup m'ont voulu que je fais l'IDE, mais non, moi je vise plutôt être soignant d'abord et on verra bien, pourquoi pas IDE après.
Voilà pour Yassia et ses 14 autres camarades inscrits. L'objectif, c'est de décrocher un diplôme. La formation d'aide-soignant s'étend sur un an. Les 15 futurs infirmiers, eux, seront diplômés au bout de 3 ans. Ils bénéficieront tous d'une bourse et d'une indemnité pour les encourager à poursuivre leur formation. Le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, présent à cette rentrée, a souligné l'importance des formations continues dans l'évolution des carrières.
On est dans l'évolution de carrière. Il faut permettre à quelqu'un qui commence à être soignant, demain, de devenir infirmier s'il en a envie, et de devenir après cadre de santé s'il en a envie, et au fur et à mesure, lui proposer des formations qui lui permettront, au gré du temps, de trouver d'autres chemins s'il en a envie.
Voilà, à noter que la livraison de la nouvelle version de l'Institut Mathilde Frébeau est attendue pour août prochain. Les travaux avancent bien selon le ministre, qui évoque l'hypothèse d'une universitarisation des formations du médical qui pourrait être pérennisée en plus de celle qui devrait être possible dès la rentrée 2025 au sein du futur institut.
Et puis toujours à l'UPF, on évoque un partenariat qui a été renouvelé.
Oui, via la signature ce matin d'une nouvelle convention cadre entre l'université et le CNRS qui travaillent ensemble depuis déjà plusieurs années. À entendre Patrick Capolzini, le président de l'université, il s'agit surtout d'une formalité qui vient mettre noir sur blanc les engagements de chacun et renforcer ce qui se fait déjà. Le CNRS, qui est un partenaire privilégié de l'établissement, vient ainsi réaffirmer sa volonté d'œuvrer au sein du consortium Resipol, de collaborer sur les projets Nahiti et Narua, mais aussi de pérenniser l'extension de l'unité de recherche commune, la Maison des sciences de l'homme du Pacifique. Ce renouvellement de partenariat se présente toutefois avec quelques nouveaux projets communs. Écoutez les précisions du président de l'UPF.
Par exemple, l'observatoire de géodésique, c'est ce qu'on appelle la station laser, qui est ici hébergée ici. Il va falloir la faire évoluer, il va falloir qu'elle change d'endroit, etc. Et donc le CNRS est très intéressé là-dedans. Donc on va travailler avec eux et avec le CNES pour assurer l'avenir de cet observatoire géodésique. On a un gros projet qui est financé par le CNRS, qui est porté par Jacques Vernaudon autour des langues océaniennes, par exemple, ça s'appelle Eliseo. Et puis on ouvre également une porte qui est très importante pour nous, qui va permettre d'accueillir des chercheurs CNRS dans n'importe lequel de nos laboratoires.
Vous avez entendu Patrick Capolzini au micro de Veille Perrer. Alors, outre ces projets, cette convention va aussi permettre une autre grosse avancée, puisque l'UPF va pouvoir accueillir dans ses laboratoires des chercheurs du CNRS, ce qui administrativement n'était pas possible jusque-là. Le président de l'université parle d'ores et déjà d'en accueillir un pour apporter son expertise sur des recherches portant sur les énergies.
Et puis d'autres étudiants, en métropole cette fois, ont planché sur un sujet polynésien.
Oui, on parle des candidats au concours externe d'entrée à l'ENA, la prestigieuse école nationale d'administration qui s'appelle l'Institut National du Service Public depuis 2 ans, eh bien ces candidats, ils ont trouvé la Polynésie parmi les sujets proposés à la session d'épreuve d'admissibilité du mois d'août. Plus précisément, la reconnaissance par la République française du peuple de Mahoinui. C'était une proposition de loi déposée le 1er février dernier par les députés indépendantistes, sur laquelle les candidats devaient rédiger une note opérationnelle portant sur une problématique de droit public, en se mettant dans la peau d'un chef de bureau du droit public et des affaires institutionnelles à la Direction Générale des Outre-mer. Alors à l'époque, l'objectif de Tematei Le Gaillic avec cette proposition proposition de loi, c'était la création d'une citoyenneté maori, préalable à la restriction du corps électoral dans un futur référendum d'autodétermination et pouvant être un instrument de la protection de l'emploi local ou encore du foncier. Malgré le soutien de Moëtte Ibrosersson et le vœu adopté par le Conseil des ministres en septembre 2023 en ce sens, le Tavini n'avait pas suivi. Pour Oscar Temaru, la lente marche vers l'indépendance doit se faire avec l'ONU et non pas par des modifications du statut négocié à Paris.
Au palais de justice ce matin, une audience de présentation.
Celle du nouveau procureur général près la cour d'appel, Frédéric Bennett Chambellan. Il succède à Thomas Pison, à qui l'avocat général Jacques Louvier a rendu un hommage appuyé ce matin. Le premier président de la cour d'appel, Thierry Paul, lui a assuré que les relations entre le siège et le parquet se sont normalisées, contrairement à l'avocat général qui ne s'est pas montré si optimiste. Frédéric Bennett Chambellan, lui, dans un très long discours, a annoncé qu'il ferait preuve d'écoute et de prudence à ne pas confondre avec indécision, a-t-il ajouté. Parlant de l'ensemble des magistrats, il a déclaré « Nous ne sommes pas ici pour générer des conflits ni instrumentaliser des procédures et personne n'est propriétaire des dossiers ». Fin de citation.
On s'intéresse maintenant à une nouvelle tendance touristique, Valdemar.
Et oui, qu'ils soient américains ou français, en hôtel 5 étoiles, sur un bateau ou en pension de famille, les visiteurs viennent tous chercher la même chose en Polynésie, des activités culturelles et immersives. Tahiti Tourism a réuni ses représentants à l'étranger la semaine dernière pour faire le portrait du touriste du futur et de ses besoins. Et les professionnels n'avaient que ce mot-là à la bouche. L'expérience. Voyager autrement, c'est le souhait des visiteurs. Et d'ailleurs, il s'agirait de leur proposer au moins 7 expériences par séjour, selon les études de marché. Il faut donc élargir la palette des activités proposées. Alexandrine Van, cofondatrice de Nani Travel, a dès le début proposé des expériences. C'était sa marque de fabrique.
On enrichit le séjour parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont énormément d'argent ont fait des hôtels bien mieux que ceux qui sont ici. Ils sont ici parce qu'il y a cet échange, cette chaleur humaine et cette culture riche. Et donc du coup, nous, on essaye vraiment d'avoir le patrimoine qu'on a et le créer en tant que produit de luxe.
Se différencier des autres destinations, c'était l'objectif de Tahiti Tourisme qui, dès 2015, avait orienté sa communication sur la rencontre d'un pays et de ses habitants. Tourisme durable, culture et accueil, les points forts de la Polynésie devraient être au cœur de la prochaine campagne de communication. A noter aussi que la Nouvelle-Zélande est devenue le troisième marché émetteur de visiteurs de Tahiti après l'Amérique du Nord et la France. Caroline Brunel, représentante de Tahiti Tourisme pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donne quelques chiffres.
On a eu une augmentation de 10% donc de Néo-Zélandais entre janvier et août 2024, on n'est pas encore arrivé au bout de l'année, et ça positionne la Nouvelle-Zélande comme troisième marché émetteur. Donc c'est un marché de proximité avec un accès direct vraiment important. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut absolument capitaliser aussi.
Et Damien, c'est plus compliqué pour l'Australie où aucun vol direct n'existe avec Tahiti et où Fidji est un concurrent sérieux qui fait de l'ombre aux Fennois. Mais le marché australien représente un potentiel énorme pour la croisière. 1,5 million d'Australiens font des croisières tous les ans. Ils adorent, selon Caroline Brunel. Reste à les faire venir dans nos eaux et donc à leur proposer des expériences.
On passe à la santé avec ces nouveaux cas de coqueluche.
Oui, 15 nouveaux cas qui ont été relevés la semaine dernière, dont un deuxième à Moorea, ce qui porte le total à 69 cas confirmés depuis la mi-juin. Ils ont nécessité au total l'hospitalisation de 6 enfants. Pour rappel, il est impératif de consulter un médecin dès l'apparition des premiers symptômes, de respecter les règles d'hygiène et l'isolement à domicile dès que le cas est suspecté.
Direction la Suède maintenant pour parler de sport.
Sport au pluriel, puisqu'on parle de swim and run, une discipline à la mode aux Fennois, mais qui est née en Scandinavie, et plus précisément entre les îles de l'archipel de Stockholm. Et c'est là qu'a lieu tous les ans l'épreuve reine du championnat du monde de swimrun, la fameuse Otilo. 70 km de long entre 24 îles, 46 transitions entre la nage en eau libre et froide et la course de trail sur un relief nordique souvent escarpé. Et au milieu de tout ça, deux Polynésiens, Thomas Lubin et Cédric Van, ils ont bouclé ce matin leur deuxième participation. Et ils l'ont bouclé avec les honneurs 7e place au scratch, 6e équipe masculine. L'objectif affiché, c'était le top 10. Il est atteint. Alors certes, le duo caressait l'espoir de créer la surprise parmi le gratin mondial. Mais Cédric Van, épuisé après ses 8h et 40 minutes de course, se dit sans regret, écoutez-le.
On a affaire à des individus qui sont bien rodés, qui sont déjà des athlètes de haut niveau. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas vraiment espérer mieux. On pouvait, à un moment donné, on a aperçu le binôme numéro 6. Ils ont eu un peu un trou d'air. Bon, à ce moment-là, j'ai eu un gros coup d'hypoglycémie. Et je dis aussi par là que ceux qui ont fini devant nous, ils étaient clairement d'un niveau supérieur. On est à notre place.
On est à notre place, c'est aussi le sentiment de Thomas Lubin, avec qui Cédric Van a déjà gagné la Xterra Tahiti l'année dernière, le swimrun de Yate en Calédonie il y a quelques semaines, et même celui de Whistler au Canada. Mais à Stockholm, c'est toute la crème de la discipline qui est sur la ligne de départ, et parmi eux, beaucoup de Français, 4 des 6 premières équipes sont tricolores. Pas sûr donc que la performance de Lubin et Van leur permettra cette année d'intégrer l'équipe de France, un rêve de gosse pour la paire. Mais qu'importe, l'essentiel c'est de progresser, car ces 70 km se sont beaucoup mieux passés que ceux de l'année dernière, quand ils avaient fini 13e au général.
Il n'y a pas photo. Hein. L'année dernière, j'ai fait une chute qui m'a complètement miné la course. Donc cette année, je me suis promis que j'allais faire très attention, surtout sur le début de course où on est sur des îles qui sont extrêmement glissantes avec un relief et des rochers qui sont véritablement des patinoires. Hein. Donc là, Thomas et moi, on se faisait que de se répéter. Prudence, c'est pas la peine de se précipiter. La course est encore longue et on ne peut pas la gagner maintenant. C'est que le début. Par contre, on peut la perdre.
Voilà, une course longue marquée pour Lubin et Van comme pour les autres de petites chutes, de crampes et de coups de mou. Mais les deux copains se connaissent bien, ils s'entraident, ils échangent sur leur état, se passent le leadership. On a suivi le plan qu'on s'était fixé, voilà ce qu'explique le duo qui finit à près de 45 minutes des vainqueurs, les Français Poulain et Charrier. Un binôme expérimenté et bien plus habitué que nos deux Tahitiens aux conditions de course du nord de l'Europe.
On s'est levé à 3h du matin pour prendre le bus et un ferry, il pleuvait déjà des cordes. Il faisait froid, on a pris le départ sous la pluie, avec un ciel totalement couvert, tellement couvert que j'ai dû changer ma paire de lunettes de natation, tellement il faisait sombre. J'avais peur de ne pas voir en fait les oriflammes qu'il fallait viser pour les sorties de natation. Voilà. Bon, on a eu du mauvais temps, on va dire jusqu'à mi-parcours à peu près, et puis ça s'est éclairci sur les 4 dernières heures environ.
Voilà, des éclaircies pour l'avenir aussi. Avec cette 7e place, Lubin et Van seront attendus sur beaucoup d'autres épreuves internationales. L'heure est d'abord au repos, puis au voyage vers la France, puis vers Tahiti. L'arrivée est prévue à samedi. Ensuite, les deux athlètes doivent discuter de leur calendrier 2025, mais ils ont déjà des rendez-vous au Fénois.
Bah pour l'instant, je sais que dès qu'on rentre à Tahiti, on fait le swimrun Mararatri. Donc on arrive et c'est le lendemain, il me semble. Jusqu'à la fin de l'année, on ne va pas bouger. Après, quelle course ?